Exode chapitre 5, versets 1 à 14. Donc si vous l'avez, c'est une bonne chose. On va le lire dans quelques instants. Je ne sais pas vous, moi je me suis dit cette semaine, ouf, bientôt les vacances. Quelqu'un a pensé à la même chose récemment? Ah. C'était une année bien fatigante, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Et je me suis dit, j'ai besoin de déconnecter de mon quotidien, de la pression, faire un break. Mais ça m'a interrogé un peu. Déconnecter, c'est bien, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de déconnecter? Je me rends compte qu'en entendant aussi le récit des vacances, parfois de l'un ou l'autre de mes amis, ben, finalement, toute l'année, ils disent subir des horaires, subir toutes sortes de contraintes, des pressions, par exemple, du management au niveau de leur travail, parfois des restrictions aussi au niveau des finances dans le quotidien. Puis finalement, ils me racontent leurs vacances et l'espace de 15 jours, j'ai l'impression que tout est permis avec les excès qui vont avec. Et ça interroge. Comment sont mes vacances? Est-ce qu'elles sont les mêmes que les leurs? Alors que plusieurs parmi nous s'apprêtent peut-être à partir en vacances dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, peut-être vous qui nous regardez, vous êtes déjà en vacances, deux sont déjà revenus et sont dégoûtés. Je nous encourage à réfléchir sur quelles sont les priorités sur lesquelles je bâtis ma vie. C'est un sujet qu'on aborde régulièrement, mais aujourd'hui, je voudrais particulièrement qu'on aborde la question du temps, du travail et du repos. Car les vacances, comprenez bien ça, ça ne peut pas tout résoudre. Ça ne peut pas résoudre un mal-être, ça ne peut pas résoudre des problèmes relationnels, ça ne peut pas résoudre un problème au travail. Et de même, et je pense que ça, il faut quand même qu'on se le dise, on ne peut pas imaginer vivre seulement 15 jours par an. Tu ne peux pas dire toute l'année, finalement, je vis à un rythme qui me fatigue, qui me plombe, qui est invivable, et pendant 15 jours seulement, je vis ma vie. Dieu t'appelle à vivre 24 heures sur 24 une vie qui est abondante. L'apôtre Pierre déclare que nous sommes esclaves de ceux qui nous dominent. La question que je te pose, que je me pose, qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui dirige la gestion de tes priorités, la gestion de ton temps, la gestion des finances, ce qu'on a vu dimanche dernier? Vous ne le saviez peut-être pas en rentrant ici ce matin, mais nous sommes tous addicts de quelque chose. Peut-être d'une relation, peut-être de la bonne image qu'on veut donner de soi-même, peut-être la nécessité de réussir, peut-être dans notre travail, dans nos études, peut-être la recherche d'un confort ou d'une sécurité qui est toute relative finalement. Et certains d'entre nous connaissent aussi des domaines dans lesquels ils sont en lutte. D'autres pensent qu'ils n'ont simplement pas suffisamment de temps, de chance ou de réussite. Mais j'ai un scoop pour vous, c'est qu'au moins sur la gestion du temps, on a tous le même temps dans la journée, 24 heures. La vérité est que nous avons besoin d'aligner nos priorités spirituelles sur nos pratiques quotidiennes. Nous avons besoin d'aligner nos priorités spirituelles sur notre pratique quotidienne. C'est un peu ce qu'on s'est dit avant, c'est que souvent on a des belles aspirations dans nos prières, mais finalement qu'est-ce qui change dans mon quotidien? On ne peut pas juste être des doux rêveurs comme ça. Et changer, ce n'est pas simple. Moi je suis passé par ça aussi, j'ai dû abandonner pas mal de sécurité financière, aussi un confort dans le travail, un confort de jour de congé, plein de choses comme ça. Ce n'était pas facile et je vous comprends tout à fait, mais nous avons besoin d'affronter nos peurs, notre paresse et aussi une certaine facilité qu'il y a à être passif. Mais être passif, c'est la pire chose que l'on peut avoir. Vous savez, quand on met une grenouille dans une casserole d'eau froide, ne faites pas ça, hein, parce que sinon la SPA va venir vous voir, mais vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau froide et vous allumez doucement le feu. Elle va être contente au début, après ça va faire un spa, il va y avoir des remous, puis à un moment, la grenouille, elle est cuite. Ce matin, je t'encourage à ne pas être cuit, à sortir de l'eau tant que c'est possible. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, Jésus libère les captifs. Et Jésus te permet de déconnecter. Et nous allons voir ce matin deux pièges qui nous empêchent de profiter de la vie. En réalité, j'en ai un peu plus, mais on va en prendre deux à retenir. Le premier, c'est être trop ignorant pour obéir à Dieu. Le deuxième être trop occupé pour adorer Dieu. Et vous avez tous ouvert votre Bible avant moi. Donc il faut que je vous rattrape. Donc Exode, pour ceux qui n'auraient jamais trouvé encore, c'est le deuxième livre de la Bible, donc vous n'allez pas chercher trop loin. Donc Exode 5, et on va lire les 14 premiers chapitres. Oui, pardon. Verset. Sinon, ça prendra un peu plus de temps. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Le Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël ? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. » Ils dirent « Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail ? Retournez à vos corvées !» Le pharaon ajouta « Ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses corvées ?» Le jour même, le pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. Vous ne donnerez plus comme avant la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la même quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Que l'on charge ces gens de travail, qu'ils y soient occupés et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Les inspecteurs et les commissaires du peuple vinrent annoncer au peuple « Voici ce que dit le Pharaon, je ne vous donne plus de paille, allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne supprime rien de votre travail. » Le peuple s'y dispersa dans toute l'Égypte pour ramasser du chaume en guise de paille. Les inspecteurs insistaient « Terminez votre tâche, chaque jour la tâche journalière, comme quand il y avait de la paille. » On battit même les commissaires des Israélites, établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. « Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas fini hier et aujourd'hui, comme avant la quantité de briques qui vous avait été fixée ?» Ce texte me paraît terriblement d'actualité. Et on voit d'abord dans cette première séquence que Pharaon est trop ignorant pour obéir à Dieu. Et toi, es-tu trop ignorant pour obéir à Dieu ? Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël ? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Pharaon ne connaît pas Dieu. Et il se pose cette question, qui est suffisamment puissant pour me contraindre à prendre une quelconque décision ? Pharaon ne connaît ni la personne, ni la puissance de Dieu. Son cœur va progressivement s'endurcir, je pense que beaucoup connaissent l'histoire. Et au fil des plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte, le pharaon se sent finalement de plus en plus fort alors qu'il perd de plus en plus le contrôle. Il pense avoir une sécurité militaire, une sécurité financière. Il pense avoir plein de personnes qui travaillent pour lui et que tout ça suffira. Et toute la puissance humaine s'envole comme de la paille devant la puissance du Dieu créateur de toutes choses. C'est ça qu'il faut retenir de ça. Tu peux avoir l'air fort, mais devant Dieu, tu ne fais pas le poids. Et c'est là aussi on voit justement combien la bêtise humaine va loin. Pharaon va pousser le fait de défier Dieu jusqu'à perdre son enfant premier-né alors qu'il était averti. Il n'a plus de cœur, il est tellement dans son orgueil. Et ce matin, je pense que c'est intéressant de se poser la question, où est-ce que moi j'en suis ? Est-ce que j'obéis à Dieu ou est-ce que finalement je suis un peu comme ce pharaon qui dit « mais qui peut me contraindre ? Pourquoi je vais obéir ?» Pharaon est païen, Pharaon ignore Dieu, mais est-ce que nous sommes vraiment différents de Pharaon ? Sommes-nous mieux que lui ? nous dirons facilement, moi j'aurais fait différemment. C'est ce qu'on se dit la première fois qu'on lit ce texte. Et finalement, est-ce que sincèrement, est-ce que j'aurais fait différemment? Vous savez, déjà dans les décisions simples de notre vie, je trouve qu'on n'est pas très bon. Est-ce qu'on ferait vraiment mieux? Lorsque Dieu nous interpelle à faire des changements, est-ce qu'on les fait? Des petits changements, hein? Est-ce qu'on les fait? Ou est-ce qu'on attend que ça se passe, un peu comme le Pharaon? Là, il n'est pas question de libérer tout un peuple et de perdre des milliards en quelques jours, hein? C'est un peu ce qui s'est passé pendant le confinement, hein? Là, c'est des questions simples de la vie quotidienne d'une personne. Est-ce qu'on est prêt à perdre quelques euros? Est-ce qu'on est prêt à perdre quelques minutes? Est-ce qu'on est prêt à changer notre cœur? Facile de penser qu'on est bon, parce que finalement, on fait rien de très terrible, on fait rien de très mal. On ne peut pas se comparer à un Hitler qui a fait un génocide. Mais toutefois, je me pose quand même la question, c'est quand que j'ai donné un sandwich à un sans-domicile fixe pour la dernière fois? Si nous n'arrivons pas à faire un peu de bien avec nos faibles moyens, comment pouvons-nous imaginer faire beaucoup mieux avec de grands moyens? Ça reste proportionnel, ce qu'on a entendu dimanche dernier, c'est que Dieu donne peu, il regarde, et s'il te juge pertinent, aligné sur sa pensée, il t'en donnera plus. Mais si déjà dans les petites choses, on n'est pas là, Dieu ne te donnera pas de plus grandes choses. Je ne vais pas reparler du jeûne et prière, mais ces temps où on peut se mettre dans la présence de Dieu tous ensemble, surtout après un an où on ne pouvait pas se voir, c'était un temps important. C'est un temps où Dieu peut nous changer, un temps aussi où on peut mettre en commun ce qu'on a pu apprendre durant cette année. Si nous ne sommes pas là pour nous rassembler, pour faire peut-être ces 3 jours pour aller dans le désert, comment pouvons-nous imaginer faire beaucoup plus de trajets pour adorer Dieu? Prendre plus de temps? Si aujourd'hui, je ne vis qu'avec des si. Si j'avais plus de temps, tout le monde a 24 heures. Mais si j'avais plus d'argent, si j'avais plus de capacités, mais si j'étais pas aussi timide, avec des si, on pourrait refaire tout le monde, mais ça reste des vœux pieux, ça change rien du tout. Comprenez bien que Dieu habite en ceux qui ont choisi de vivre pour lui, et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça vient de Spider-Man, je sais, mais c'est vrai. Dieu te donne le pouvoir d'être enfant de Dieu, de lui appartenir, d'être son ouvrier dans ce monde, d'être son ambassadeur dans ce monde, de montrer son amour à ce monde. Sommes-nous, je ne dirais pas à la hauteur, mais sommes-nous juste déjà en chemin? Sommes-nous engagés dans ce sens-là? Plus difficile, lorsque l'on est disciple de Jésus, ce n'est pas de savoir quoi faire, parce que finalement, vous venez à un culte, vous savez à peu près l'essentiel. C'est on n'y va pas avec nos propres forces, c'est la grâce de Dieu. Mais ce qui est important, c'est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. C'est le commandement que Jésus a donné le plus grand. C'est quelque chose de simple, mais combien c'est difficile de mettre en place. Nous apprenons rapidement tout cela par quelques lectures de la Bible, par ce temps qu'on passe ensemble le dimanche avec un temps autour de la prédication, un temps aussi dans les groupes de maison, les groupes de vie comme passerelle, groupes de jeunes, mais aussi toutes les situations de la vie quotidienne qui nous interpellent. Et le plus difficile est de mettre en pratique ce que nous devons savoir faire. Ce n'est pas de savoir plein de choses, de savoir citer toute la Bible par cœur, c'est de mettre en pratique ce que nous devons savoir faire. En Matthieu 22, verset 36, Jésus le dit justement, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Combien facilement nous trouvons des excuses pour ne pas aimer? Je pense qu'on est repris là-dessus maintenant depuis quelques semaines. L'amour selon la Bible, ce n'est pas un amour « Ah, j'aime tout le monde, un peu hippie ». C'est un amour qui nous coûte. Jésus nous donne l'exemple de son amour sacrificiel pour l'Église, mais aussi pour toi, pour chacun d'entre nous. Et c'est un amour qui nous coûte que Jésus nous appelle à vivre. Si dans notre couple ou dans notre église, nous n'avons pas un amour qui nous coûte, C'est un amour qui est superficiel, mes amis. Je suis convaincu que si nous connaissons mieux la personne et la sainteté et la puissance de Dieu, il y aurait des grands changements qui s'opéreraient dans notre façon de vivre notre quotidien, seront beaucoup plus conséquents dans notre vie de disciples de Jésus. Ceux qui suivent Jésus sont des disciples. Et pour être un disciple, il faut de la discipline. Il y a la grâce, soit, mais à un moment, il faut quand même faire ce premier pas. Et après, faire un pas de plus chaque jour. Parfois, il y a des jours où on va tomber, des jours où on ne va pas réussir, mais c'est Dieu qui va nous relever, qui va nous donner la force d'aller de l'avant. Mais à un moment, on ne peut pas juste dire, ben, moi, j'attends que ça se passe parce que Dieu me transforme. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans les 10 commandements, et pour revenir un peu au sujet de la prédication sur la gestion du temps, du travail, il y a quelques mois, il y a un ami qui m'a dit, tu sais, les 10 commandements, ce n'est pas 9 commandements et un bon conseil. Il te faut un jour de repos dans la semaine. Pour moi, c'était un choc, parce que Nadia pourra en témoigner. Prendre un jour de repos, c'est vraiment un défi en soi. L'autre jour, j'ai fourché, j'ai dit que je suis en cours de congé. Donc, cours dans le sens apprendre à prendre un congé. Mais je n'ai pas fait exprès de le dire pour vous dire dans l'état où j'étais. Mais c'est un vrai défi. Et je me rends compte que le plus difficile, c'est finalement d'accepter l'autorité de Dieu avec humilité. Et c'est autant plus ambigu, je pense, quand on est pasteur ou quand on est serviteur de Dieu. C'est Dieu le patron et il te dit non, mais maintenant stop, tu prends un jour de congé. Ça fait bizarre, hein. Mais pourtant, c'est ce que Dieu nous demande à chacun et chacune. Et vous savez, je pense que peu importe ce qu'on fait, même si tu es femme au foyer, homme au foyer ou autre, sommes tous sous la dictature de la performance. On attend une performance de nous. On est tous sous la dictature du regard que les autres vont avoir sur nous. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Si par exemple, je pars un peu plus tôt ou je pars juste à l'heure du travail, certains, ils restent même au travail sans rien faire, mais juste pour donner l'impression qu'ils ont bien respecté le quota, mais un peu plus, quoi, pour montrer, ah oui, moi je suis submergé, comme ça, je suis bien impliqué dans l'entreprise. Qui ne l'a jamais fait? Et ça donne l'impression qu'on fait des efforts, mais en fait, c'est des efforts factices, tout ça. Ce n'est pas les vrais efforts que Dieu nous demande. Les efforts que Dieu nous demande, c'est de se soumettre à sa parole et aussi compter sur le fait que chaque jour, il va nous donner la force nécessaire pour arriver à faire ce qu'il faut. Et je vous parle de tout ça, mais je suis le premier à l'expérimenter aujourd'hui. Je me suis lancé dans un chantier un peu pharaonique. Ma belle-sœur, qui est architecte et dans le métier, m'a dit « Bon, ça, c'est ce qu'on prévoit en 6 mois d'habitude. Toi, tu veux le faire en 1 mois. » Donc, je comprends mieux pourquoi je suis fatigué. Mais dans Deutéronome 5, il nous est dit cela. Verset 12. « Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel, ton Dieu, l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Si Dieu donne même du repos aux animaux, je crois que le repos est pour toi aussi. La demande du repos, du Shabbat, un jour de repos, est directement liée, vous l'avez vu, à la libération du pays d'Égypte, à la libération de l'esclavage, à la manifestation de la puissance de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, les Juifs, encore aujourd'hui, malgré que ça fait plusieurs millénaires qu'ils sont partis d'Égypte, ils préparent encore minutieusement le Shabbat. Ils préparent tout pour ne pas avoir à cuisiner. Le four s'allume tout seul, ça chauffe. Ils n'allument pas la lumière eux-mêmes, c'est des minuteries qui le font. Il y a des ascenseurs sabbatiques qui font que ça tourne automatiquement d'étage en étage pendant tout le week-end. Même le papier toilette, ils le coupent à l'avance. Pour nous, on rigole parfois. Mais je me dis, est-ce que nous, on n'est pas trop léger quand même dans notre consécration à Dieu? Je ne parle pas de légalisme, je ne parle pas de rituel ni rien. Je parle de consécration. Où est mon cœur? Comment t'organises-tu pour adorer Dieu? Aujourd'hui, je pense sur cette année, on a vraiment vu que c'est une organisation d'adorer Dieu. Il faut s'inscrire, il faut emmener son masque, il ne faut pas l'oublier. Bon, heureusement, on en a de secours. Mais il y a les transports. Certains disent à chaque fois, oui, mais je ne peux pas, j'ai transport. Tout le monde a transport. Demande à un copain, il t'emmènera. C'est trop facile de se trouver plein d'excuses. J'ai des travaux, j'ai des devoirs, j'ai des examens. Mais mon ami, c'est le lot de tout le monde, c'est le lot de notre quotidien. Si on ne prend pas position sur des choses simples de notre vie, on n'y arrivera jamais quand ça sera plus compliqué de prendre des quand ça sera plus difficile de prendre position. Marc 2, verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Dieu a créé le sabbat pour que nous nous souvenions de sa puissance et de sa libération. Aujourd'hui, honorons la libération que Christ nous donne de tous ces fardeaux. Cela doit nous permettre de nous consacrer à Dieu, à nos familles, à nos amis et finalement aux moments importants de notre vie. Et c'est là où je veux vraiment nous interpeller. Si votre activité professionnelle inclut de travailler le dimanche, il n'y a rien de mal à travailler le dimanche. Mais prenez un jour dans la semaine pour vous consacrer à Dieu. Si vous n'arrivez pas à rejoindre, par exemple, un groupe de maison ou d'autres choses comme ça, des temps où on se retrouve aussi tous ensemble, là, il faut commencer à sérieusement s'en occuper. Ce n'est pas forcément de changer de travail dans l'immédiat, mais c'est peut-être simplement d'aller voir les responsables de l'Église et dire ben voilà, moi j'aimerais bien qu'on puisse se réunir en semaine et on essaie de se voir à 3-4. C'est tout à fait faisable. Mais à un moment, il faut se bouger. Il faut voir qu'il y a un problème et chercher des solutions ensemble. De même, si tu travailles. On a besoin d'être en communion les uns avec les autres, on a besoin d'être en communion avec Dieu. Mais tu ne peux pas juste dire moi je suis en communion avec Dieu, je prie tous les jours, je lis une heure la Bible tous les jours. Non, c'est une question de communion avec Dieu, communion avec les autres, communion avec notre famille. C'est un choix, ça ne se fera pas tout seul. Il est urgent, peut-être pour certains d'entre nous, de personnellement se positionner ce matin. De même, il n'y a aucun problème à devoir exceptionnellement prendre un peu de temps pour bricoler quelque chose sur un dimanche, par exemple. Vous avez une grosse contrainte, vous le faites un dimanche, il n'y a pas de souci. Le vrai souci, c'est quand dimanche après dimanche, ou le jour que tu as choisi comme ton jour de consécration, tu te retrouves à faire des travaux du midi au soir, ou du matin au soir, ou du soir au soir. À un moment, c'est juste une question de priorité. Et je vais encore aborder un autre sujet. Donc, vous ne sentez pas personnellement visé, loin de là, ce n'est pas l'idée, mais c'est quelque chose que j'observe dans plusieurs églises en Île-de-France, et aussi en discutant avec d'autres pasteurs. Certains, je vais présenter ça autrement. Il est bon de prendre des vacances et si vous avez l'opportunité de partir en vacances et peut-être prendre l'air ailleurs, allez-y, ça fait toujours du bien de dépayser, ça permet de prendre de nouveaux repères, de prendre un souffle nouveau, d'être un peu moins dans les habitudes du quotidien. Il n'y a aucun souci aussi, et je vous encourage à le faire de manière régulière, à visiter des amis, aller à l'église aussi avec eux dans leur église. Se faire un week-end en famille qui est ressourçant, allez-y, n'hésitez pas, c'est chouette, c'est important. Par contre, il y a quelque chose qui est un peu troublant en Île-de-France, et je l'ai moins vu dans d'autres régions, en tout cas moins entendu, c'est certains restent à la maison, ils se mettent dans leur canapé durant 2 mois et ne participent à aucune vie d'église alors qu'ils habitent à quelques kilomètres ou parfois quelques centaines de mètres de l'église ou d'une église. Ce qui est important dans le repos, c'est de se déconnecter de nos contraintes pour se connecter à Dieu, à l'Église, à notre famille. Mais ce n'est pas pour rentrer dans notre petit coquillage. Je veux blesser personne, mais c'est important. Ça montre une attitude de cœur que Dieu veut peut-être travailler ce matin. Le sabbat, le repos, est spécifiquement voulu par Dieu et ça concerne tout d'abord notre relation à Dieu, notre consécration à Dieu, notre consécration à notre famille, notre consécration à nos proches, notre consécration à notre Église et surtout pas se mettre dans sa petite bulle. parfois, ça dépend des caractères, on a besoin de se mettre un peu de côté, il n'y a pas de souci. Mais n'utilisons pas le repos pour nous couper de tous. En tout cas, pas tout le temps. Et on va faire une expérience. Alors, avec le micro, ça ne va pas être simple. Ah, c'est gentil. Merci. Merci à la personne qui a ramené ça à l'église. Je vais essayer de le rendre entier. Sinon, j'ai de la bonne colle à la maison. Alors déjà, illustration numéro 1, certains pensent avoir ce format-là de temps dans la journée. Et d'autres, ils les comparent à ce format-là. Donc ça, c'est des journées de 3 heures, ça, c'est des journées de 24 heures. Tout le monde a ce format-là. Donc voilà. Tout le monde a le même temps. Donc ne pense pas que toi, tu as moins de temps que les autres. C'est une fausse perception des choses. Nous avons tous le grand format, 24 heures. Tu es heureux, tu es à égalité avec les autres. On va commencer d'abord. Certains d'entre nous, c'est de la maison, hein, c'est une façon de m'en débarrasser au fur et à mesure. Donc c'est un gravat. On commence avec parfois des fardeaux, parce qu'on commence notre vie de chrétienne un peu au fur et à mesure. Après, on commencera comme un jeune qui a et instruit dans la parole de Dieu, devrait le construire, et comment nous pourrons peut-être essayer de le rétablir. Alors, on commence avec des contraintes. Et après, on essaie de mettre des choses qui ont de la valeur, qui vont porter du fruit et qui vont nous faire du bien dedans. Et ça fait qu'après, on se rend compte que finalement, ça a un peu de mal à rentrer. Alors, le premier, c'était peut-être mon temps avec Dieu. Ça, c'était peut-être mon temps de lecture, mon temps de prière, mon temps de communion avec les frères, mon temps avec la famille. Et finalement, on est déjà au bout du bout. Et le but, c'est d'enlever les contraintes. C'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas aussi au niveau de notre Église, mais finalement, c'est le but de chaque disciple de Jésus, c'est d'enlever au fur et à mesure ce qui est un boulet qui nous empêche d'avancer dans la parole de Dieu. Donc, on va recommencer. On va enlever les gravats, comme ça je pourrais les jeter ici, ça me fera ça de moins à la maison. Et là, le principe, ça va être d'abord de mettre les choses importantes. Ma relation avec Dieu, ma relation avec ma famille, ma relation avec l'Église, ma relation avec mes amis, mes voisins, ben, peut-être avoir une activité sportive, il faut se maintenir en forme. Faut avoir un travail pour vivre, Jésus lui-même le dit. Donc, voilà. Donc ça fait qu'au fur et à mesure, on a mis les choses importantes. Il y en a peut-être encore d'autres qui peuvent s'y trouver. Et après, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de petits trucs à faire tous les jours. Il faut payer des factures. Certains en ont plus que d'autres. Il faut aller entretenir la voiture. Il faut faire les devoirs avec les enfants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez encore une idée? Les impôts. Il faut gérer ses comptes. Et ça fait qu'assez rapidement, ben, ça se remplit. Est-ce que c'est plein? Ah. Ça fait qu'après, il y a de la place pour les choses qui sont parfois un peu moins importantes. Par exemple, refaire la peinture. Qu'est-ce qu'il y a de moins important? Bah, prendre un café, c'était dans les verres. Bon. Allez, un café, cirer les chaussures. Vous faites rien d'autre? Faire les soldes, bah, ranger la chambre, je pense que c'était dans les gros cailloux quand même. Pardon? Ah, jardinage, oui. Voilà. Est-ce que là, c'est plein? Bah, on va dire c'est plein, parce qu'après, le pupitre, il va me lâcher. Ça va être la... ça va pas être bon. Vous savez quoi? Quand on met dans l'ordre, ça fait que le sable, il va se mettre entre, on va permettre... Et il vous restera toujours un peu de temps pour être dans la présence de Dieu, prendre un thé ou un café avec un ami, avec un collègue. Ouais. Mais tout ça... Il faut le faire dans le bon ordre. Si j'avais mis l'eau en premier, j'aurais rien pu mettre d'autre. Vous voyez l'idée? Parfois, on a besoin de choses un peu visuelles, ça dépend un peu des personnes, mais quand on fait les choses dans le bon ordre, en plaçant les priorités aux bons endroits et en premier, en enlevant au fur et à mesure ce qui est un obstacle, ça fait qu'on peut avoir une vie qui est beaucoup plus alignée avec nos priorités spirituelles. J'ai rien cassé, en plus, je suis fier de moi. Donc, ouais, je vais poser par terre. Oh, purée. Ça, c'est de la sagesse. Donc, à retenir, nous ne soyons pas ignorants, mais obéissons avec passion à Dieu parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Aussi, donc, le deuxième aspect, ne soyons pas trop occupés pour adorer Dieu. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Le pharaon ajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous, vous le feriez interrompre ses corvées. Dans la vision de Pharaon, ce qui a le plus de valeur, ce n'est même pas le travail en tant que tel, c'est l'économie. Il faut être dans la croissance, il faut produire. Et comprenez bien, et ça je pense que c'est important pour nous chrétiens, et surtout si vous avez des responsabilités peut-être dans le monde de l'entreprise, si vous êtes cadre, peut-être responsable d'entreprise, responsable d'association, responsable aussi dans l'église, l'économie n'a pas vocation à juste produire pour produire et emmagasiner de l'argent. L'économie, bibliquement, ça doit servir à assurer une existence décente aux employés et leurs familles. Bien sûr, l'entreprise elle a besoin d'argent pour fonctionner, pour pouvoir se développer, pour qu'il y ait plus de personnes qui y travaillent, et ainsi de suite. Et c'est très bien, il faut avoir des liquidités financières, et ainsi de suite. Mais le but premier, c'est d'assurer la vie quotidienne des employés et de leurs familles. C'est toute une autre façon de concevoir notre vie quotidienne si nous aussi, nous sommes dans cette dimension-là, que l'on soit simple employé ou que l'on soit responsable d'une entreprise. Si je vais au travail, c'est pour glorifier Dieu par mon travail et pour avoir de quoi vivre et on l'espère que vous puissiez prendre plaisir à votre travail. Mais c'est une injustice sociale proche de l'esclavagisme que de mettre des personnes dans des situations de précarité pour gagner de l'argent sur leur dos. Aussi, et ne le prenez pas mal, mais je pense que c'est vraiment une piste de réflexion. Si en cumulant vos heures de transport pour aller travailler, votre coût, votre revenu est plus bas que le minimum social, qui est le SMIC, il faut aussi se poser des questions. Ça veut dire que vous n'avez pas à vivre à l'endroit où vous travaillez. Nous évoquons régulièrement la grâce de Dieu envers nous, et ça nous montre que nous pouvons nous attendre à lui et parfois prendre aussi des décisions qui sont importantes dans ces domaines-là. Romains 11, verset 6. « Or, si c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. » Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ça montre que nous ne voulons pas vivre pour faire, nous voulons vivre pour être sous la grâce de Dieu et faire les choses avec les forces qu'il nous donne. Et si nous faisons les choses, ce n'est pas pour mériter quelque chose de plus de Dieu, mériter quelque chose de plus de nos conjoints. Il faut nous détacher de cette perception-là, parce que ce n'est pas la bonne perception. La valeur que tu as, elle vient de la valeur que Christ te donne, parce qu'il est mort pour toi. Il a souffert pour toi et il est ressuscité pour toi. C'est là ta valeur. Ce n'est pas dans ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Et ça nous détachera, même dans les domaines spirituels de « il faut que je prie, il faut que je lise la Bible, il faut que j'aille à l'église ». mon ami, la vie chrétienne, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas le chemin de la facilité, ça nécessite de la discipline, de l'endurance, mais pour autant, le but, c'est de nous donner soif, avoir envie d'être en relation avec Dieu, envie de le connaître, nous rappeler de toutes les bonnes choses qu'il a fait dans le passé et qu'il continue à produire chaque jour, d'être en relation avec Dieu, d'être réconcilié avec lui, de pouvoir être écouté par la personne la plus puissante de l'univers, lui parler, se retrouver en famille. C'est ça des choses qui sont importantes. Et tout ça, c'est immérité. C'est Dieu qui nous le donne gratuitement. Ce n'est pas ce que tu fais qui te donne la valeur ou qui te définit. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui nous amène aussi à être cohérents dans ce que nous sommes et ce que nous faisons. Nous ne devons pas avoir une vie spirituelle et une vie pratique. Les deux doivent fonctionner ensemble. Au mois de septembre, on va proposer une petite formation qu'a préparée Nadia sur mon identité en Christ. Et je vous invite à y réfléchir et ça va aborder ces sujets-là pour vous y inscrire et vraiment avoir une réflexion biblique de où est mon identité, où est ma valeur. Verset 6, le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. Vous ne donnerez plus comme avant la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Et vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge ces gens de travail, qu'ils y soient occupés, et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. » Et là, on voit trois pièges qui nous détournent régulièrement de notre vocation à adorer Dieu. Premièrement, vouloir être multitâche. Les Israélites doivent désormais, en plus de façonner des briques, chercher toute la matière première, en tout cas une partie, tout en gardant la même productivité. Ce qui est demandé, c'est d'être multitâche, de faire plein de choses en même temps. Et vous savez, d'être multitâche comme ça, ça nous accapare toute notre énergie, toute notre capacité de réflexion. Et on a tellement l'habitude maintenant d'être poussé à être multitâche. Par exemple, à être à une réunion en entreprise. Vous êtes à une réunion, vous êtes en train de taper le compte-rendu de la réunion précédente. Ça vous est déjà arrivé? Vous êtes en train de répondre à des messages que vous envoient vos collègues sur des problèmes qui sont en train de se dérouler. On mange en regardant la télé. C'est pas grave une fois, mais si c'est tout le temps. On est tout le temps en train de faire deux choses. Peut-être en train de consulter Facebook en même temps qu'écouter la prédication, là. Bon, pas ici, hein, bien sûr. Je m'adresse que aux Zoomers et aux YouTubers. Ou peut-être la salle du fond. Mais ça m'interroge. Savons-nous écouter Dieu sans nous disperser dans toutes les distractions? Savons-nous écouter Dieu sans nous disperser dans toutes les distractions? C'est un choix de parfois canaliser les choses et de faire qu'une seule chose en même temps. Je peux très bien, par exemple, bricoler et prier, ou penser à quelque chose de Dieu, ou quelque chose qui est bon pour l'Église, ou ma famille, ça je peux le faire très bien ensemble. Mais si je commence à bricoler tout en préparant une réunion, et ainsi de suite, j'ai plus cette capacité-là. Deuxièmement, l'esclavage du travail. Le travail peut accaparer tout notre temps, toute notre énergie, si nous ne fixons pas de limites. Et beaucoup de personnes m'ont fait la réflexion qu'avec le télétravail, c'est pire que le travail présentiel. Qui est d'accord avec ça? Bon, il y en a quelques-uns. Mais si on ne fixe pas de limites, ben, ça peut nous prendre tout le temps. Certains disent, en fait, maintenant, je travaille 12 heures par jour. Avant, je travaillais 7 heures et je n'y arrive toujours pas. Et il y a une loi qui a été votée. Donc, la France est le premier pays au monde à avoir voté cette loi du 1er janvier 2017. L'article 55 oblige les entreprises à garantir à leurs salariés un droit à la déconnexion. Celles-ci doivent mettre en place des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, définir des modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et sensibiliser leurs collaborateurs à un usage raisonnable des outils digitaux. Un sondage a été fait suite à ça. En effet, 78% des cadres interrogés, donc 1000 personnes en 2017, déclarent consulter leur communication professionnelle, email, SMS, appel, durant les congés et les week-ends, avec un chiffre de 89% pour les professions libérales et 90% chez les responsables encadrant plus de 10 personnes. Donc, comme quoi, on peut avoir des lois, on peut avoir des principes spirituels, mais la pratique, où est-ce qu'on en est? Si ce n'est pas ton activité professionnelle, c'est peut-être tes loisirs qui te volent du temps, mais c'est l'occasion. Ce n'est pas pour juger aujourd'hui, c'est plutôt pour nous poser des bonnes questions. Est-ce que mes priorités sont cohérentes avec la façon dont je dépense mon temps? Troisièmement, saturé par les activités. C'est une stratégie du diable et elle ne date pas d'aujourd'hui. Et par contre, on est en plein dedans aujourd'hui. Ça consiste à occuper toutes les pensées par des activités, par des loisirs, par des professionnels, par des séries, par plein de choses. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais l'idée, c'est d'arriver à une sorte de saturation pour arriver à ce qui est dit avant. Saturez-les de travail, comme ça, ils ne réfléchiront plus. Mon ami, ce matin, prend le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui m'empêche de consacrer du temps à Dieu? Le travail? L'euro de foot? Bon, l'euro de foot, ça ne dure pas trop longtemps, mais par contre, il y a aussi d'autres matchs. Netflix? L'aménagement d'une maison? C'est un combat, hein? Ma famille? Même les bonnes choses, parfois, peuvent prendre une place qui est démesurée. Le sport? C'est étonnant de voir que même les bénédictions que Dieu nous donne peuvent nous détourner de notre vocation. Jésus parle d'un roi qui invite des personnes à une grande fête et chaque invité donne alors ses excuses. À l'heure du festin, il y envoya son serviteur dire aux invités « Venez car tout est prêt ». Mais tous sans exception se mirent à s'excuser. Le premier dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Quelles sont nos excuses à nous? On rigole en voyant ces histoires de bœufs, de champs et ainsi de suite, mais quelles sont nos excuses à nous? Peut-être, j'ai du travail, j'ai des enfants, j'ai des études, j'ai des travaux, j'ai un match, il faut s'inscrire, j'ai pas de masque, je suis venu déjà la dernière fois. Il faut que je me déplace, il fait trop chaud, trop froid, trop humide, trop sec. Il n'y a pas de place de parking. J'ai piscine, aquaponie. Bon, pour Kids Cup, ça compte pas, vous pouvez y aller. Mais sommes-nous cohérents avec la violence du sacrifice de Jésus pour nous mettre en relation avec Dieu? Est-ce que nous sommes des violents pour le royaume? Est-ce que nous avons conscience du prix qu'a payé Dieu pour être en relation avec nous? Et la question qui s'est posée durant le temps de jeûne, on lisait dans Thessaloniciens, je ne sais plus quel verset, mais Paul qui prie pour l'Église et dit « Je prie que vous soyez dignes de la vocation éternelle qui vous a été donnée. » Je prie pour que notre Église soit digne de la vocation éternelle qui nous a donnée, pour que chacun des disciples qui fréquentent notre Église soit digne de la vocation éternelle que nous a donnée Dieu. Ne soyons pas trop occupés pour adorer Dieu, car il mérite le meilleur. Et vous savez, ce qui est particulier, c'est juste quelques versets qu'on n'a pas lus avant, c'est Moïse et Aaron qui vont voir tout le peuple, et Dieu agit et il fait des miracles pour leur prouver que c'est vraiment des envoyés. Tout le monde dit « Amen, c'est chouette que vous alliez voir le Pharaon, Dieu va nous délivrer, ainsi de suite. » Mais ce qui va se passer, c'est juste après ce passage-là, Moïse et Aaron sortent de chez Pharaon, les nouvelles prérogatives du pharaon se mettent en place, ils doivent travailler plus. Et il y a tout le monde qui leur tombe dessus. Et qui leur dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes allé voir le pharaon? Pourquoi est-ce que vous êtes venu pour nous délivrer? C'est encore pire maintenant. Et vous savez, ça c'est intéressant parce que finalement, parfois on se dit, c'est vraiment pas top, c'est vraiment à la limite, mais je préfère rester passif parce que ça pourrait être pire. C'est vraiment un raisonnement humain qu'on a chacun et chacune, mais parfois il faut se dire, mais je suis appelé à la liberté en Christ. Et ça nécessite de parfois rencontrer l'hostilité pour adorer Dieu. Ça nécessite de se positionner, de ne pas faire les mêmes choses que d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et en Éphésiens 6, verset 10, il dit cela, parce que c'est une question de combat spirituel. Ce n'est pas contre des personnes, ni contre des institutions, mais c'est une question de bataille spirituelle. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants et dans les lieux célestes. Connaissons une lutte qui n'est pas contre des personnes, mais contre un monde spirituel qui essaie de ralentir l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans notre Église et dans notre pays et dans ce monde en général. Et c'est là où il faut, parfois on est trop mignon. Le diable, il a des milliers d'années d'expérience pour nous détourner, pour nous déstabiliser, pour ôter la vocation éternelle des disciples de Jésus. Il est méthodique et il est rusé. Et sans discipline, sans réflexion, nous allons immanquablement être tombés dans ces pièges-là si nous ne nous laissons pas abreuver par le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est pourquoi ne nous trompons pas de combat, évitons les pièges et vivons avec passion notre vocation d'enfant de Dieu. C'est pour ça, déconnectons des addictions et connectons-nous à Dieu. Et je vous invite à prier. Oui, Père, c'est vrai que combien facilement je me détourne de ce qui est bon, de ce qui est ma vocation éternelle, de la vie abondante que tu me proposes. Et Seigneur, je pense que beaucoup d'entre nous nous sentons concernés par ce texte. Combien facilement nous nous perdons dans toutes sortes de pensées qui sont stériles ou qui ne nous conduisent nulle part. Et je te prie, s'il te plaît, que tu puisses sonder nos cœurs et nous aider à vraiment avoir une réflexion sur quelles sont nos priorités, comment nous dépensons notre temps. Je te prie, s'il te plaît, qu'on ne tombe pas dans la facilité de se dire « on fait avec et puis c'est bon, il y a la retraite qui arrive ». Seigneur, viens et sonde nos cœurs. Aide-nous à ôter ces gravats, ces obstacles qui nous empêchent de laisser la place pour les choses importantes de nos vies. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse être une église qui porte du fruit, une église qui t'aime et qui aime nos prochains, une église qui est relationnelle, qui est vraie, qui est authentique, un disciple authentique, une église authentique, un disciple et une église engagée. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que ce ne soit pas juste des slogans, mais que ce soit vraiment quelque chose d'éprouvé dans notre vie personnelle, notre vie de famille, notre vie d'église. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de libérer ceux qui sont captifs de toutes sortes de choses, que ce soit du travail, que ce soit de loisirs, que ce soit de séries, que ce soit peut-être du tabac, d'autres choses, Seigneur. Seigneur, nous sommes libres en toi, nous le déclarons, nous t'appartenons et nous sommes plus que vainqueur avec toi. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.